Manuel Valls évoque la situation en Nouvelle-Calédonie dans les médias métropolitains. Vous entendrez le ministre des Outre-mer dans un instant. Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France en visite sur le territoire, le colonel Bosselan, est l'invité de ce journal. Le CHN annonce la réouverture du service de chirurgie de Koné. 10 lits sont opérationnels. Autre nouveauté, la reprise des sorties du SMUR. L'ADI lance une campagne de recrutement de bénévoles. Des cafés-rencontres sont proposés dans tous les lieux où l'Association pour le droit à l'initiative économique intervient sur le territoire. Et puis le sport et un événement à venir, ce sera le week-end prochain. En voile, la No Woman No Sail. Il s'agira de la 14e édition de ce week-end dédié à des régates 100% féminines. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. L'actualité politique fait la une ce soir. Manuel Valls, très présent sur la scène médiatique en métropole. Il était cette nuit pour nous l'invité de France Inter et interrogé sur le vote de confiance demandé par François Bayrou. Il a mis en garde contre un suicide collectif. Le ministre des Outre-mer a bien sûr été également interrogé sur la situation calédonienne et sur l'accord de Bougival.
Moi, je mets toute mon énergie, ma connaissance du territoire, ma volonté de dialogue, et je pense que, évidemment, si la situation politique que nous avons évoquée...
Plus de gouvernement dans une semaine, comment vous faites ?
Je reconnais que c'est un des dossiers, mais moi, je reste là-dessus optimiste. Et d'ailleurs, je le dis très modestement, vous savez, on dit en Calédonie, on dit avec respect et humilité, donc avec beaucoup d'humilité. Je dis aussi aux forces politiques nationales, attention, il y a le dossier de la Nouvelle-Calédonie. Donc, il faut repousser les élections provinciales, ça, le Sénat a prévu de le faire à la fin du mois de septembre, et engager, le président de la République qui le fera, bien évidemment, on le fera en Conseil des ministres, je l'espère, une réforme constitutionnelle qui permettra notamment aux Calédoniens de voter au mois de février sur cet accord.
Et le ministre des Outre-mer a aussi été interrogé sur les ingérences étrangères dans le Pacifique.
C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a fait de la stratégie Indo-Pacifique une grande priorité. Et je suis d'accord avec lui, parce que dans le Pacifique, c'est là où on voit l'affrontement des deux grandes puissances du XXIe siècle, la Chine et les États-Unis d'Amérique. Oui, la Chine progresse dans son influence sur tous les petits États du Pacifique. Derrière, vous avez la Russie et l'Azerbaïdjan qui cherchent à déstabiliser, y compris une partie très minoritaire des indépendantistes, c'est vrai en Polynésie, c'est vrai en Nouvelle-Calédonie, c'est vrai aussi dans l'océan Indien, on voit bien les pressions qu'il y a sur Mayotte où je me rends demain. Oui, la Russie et l'Azerbaïdjan jouent là-dessus. Mais ça a toujours un peu existé. Hein. Avant, c'était l'URSS ou la Libye. Donc, il faut tenir bon. Et l'image de la France aussi, dans le Pacifique, passe par la restauration de la paix et la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie.
Au niveau national, Manuel Valls, qui avait déjà appelé vendredi un compromis allant des socialistes jusqu'aux républicains en passant par le bloc central pour éviter une crise de régime, a de nouveau soutenu que des élections législatives anticipées amèneraient incontestablement le Rassemblement national à un niveau jamais atteint, peut-être même à la majorité absolue. Ça, je ne le veux pas, a-t-il dit. Et il appelle tout le monde à se ressaisir et à trouver la voie du dialogue et du compromis en ajoutant qu'il n'y a pas d'autre solution. En Calédonie, le député Nicolas Metzdorf votera la confiance du gouvernement Bayrou. Il l'annonce dans un communiqué en précisant que ce vote sur la confiance sera déterminant parce qu'un refus entraînerait la démission immédiate du gouvernement et ouvrirait une période d'instabilité dont ni la France ni la Nouvelle-Calédonie n'ont besoin, Elisabeth Noir.
Le député de la première circonscription rappelle d'abord que la stabilité parlementaire est essentielle afin de mener à bien l'accord de Bougival. Il serait irresponsable, écrit-il, de fragiliser ce processus par des turbulences politiques venues de Paris. Il affirme ensuite qu'au niveau national, la France vit depuis trop longtemps au-dessus de ses moyens et que si certaines réformes sont difficiles à prendre, elles sont malgré tout indispensables pour ramener la dépense publique à un niveau acceptable. Il ajoute que la réussite du budget aura d'ailleurs également un impact sur la Nouvelle-Calédonie, qui a besoin pour survivre du versement des 28,5 milliards correspondant à la deuxième tranche du prêt garanti par l'État, récemment validé par le Congrès. Nicolas Metzdorf rappelle que la Nouvelle-Calédonie, qui est confrontée depuis les émeutes de mai 2024 à une situation économique et sociale absolument catastrophique, a impérativement besoin du soutien de l'État. C'est pourquoi le 8 septembre, il apportera sans ambiguïté sa confiance au gouvernement de François Bayrou, parce que, dit-il, la stabilité est la condition du redressement de la France et de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et voici notre question du jour. Pensez-vous que François Bayrou va parvenir à obtenir la confiance le 8 septembre? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Vous envoyez bien sûr votre réponse au 3146. Je vous donne un rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Demain, c'est le maire du Mont-d'Or, Elisabeth Rivière, qui sera notre invitée du matin. Elle viendra essentiellement parler sécurité avec l'installation de la direction de la sécurité de la commune au centre-ville, mais aussi de l'évolution de l'organisation de la sécurité sécurité sur la RP1 à Saint-Louis. Rendez-vous donc demain matin à 7h30 sur RRB. Je vous le dis en titre, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France est en visite sur le territoire. Le colonel Jean-Paul Bosselon est notre invité. Bonsoir mon colonel.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Un mot tout d'abord sur cette fédération. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors notre fédération a été créée par nos prédécesseurs en 1882. Mmh. Et elle a créé aussi une deuxième association, loi 1901, qui s'appelle l'œuvre des pupilles et du fonds d'entraide. Et on gère, grâce à cette œuvre des pupilles, 1755 orphelins de sapeurs-pompiers décédés.
Mmh. Quel est le domaine de compétence de la fédération ? À quoi elle sert en fait cette fédération ?
La volonté de nos anciens, c'était de réunir plusieurs sapeurs-pompiers pour pouvoir améliorer les conditions de travail et aussi des conditions d'accompagnement social pour nos collègues sapeurs-pompiers. Mmh. Et aujourd'hui, les statuts de la fédération, qui regroupe 285 000 adhérents sur l'ensemble des territoires français, a notamment 18 objectifs pour améliorer notamment la sécurité civile de demain.
Si c'est une fédération, ça veut dire qu'il y a d'autres unités, j'allais dire, qui sont en dessous de la fédération. Comment ça se passe ?
Alors, les socles de cette fédération, tout à fait, elle ne vient pas de Paris, elle vient des territoires, notamment mmh. ici, en Nouvelle-Calédonie, avec l'Union des pompiers calédoniens, qui nous permet d'avoir cet ancrage territorial et surtout de pouvoir faire remonter les informations depuis le terrain par celles et ceux qui arment au quotidien les véhicules de secours auprès de la population.
Mmh. Cette fédération, c'est pas un syndicat professionnel, hein ?
Non, c'est un regroupement de l'ensemble des sapeurs-pompiers, des professionnels, des volontaires, des personnels administratifs et techniques, mmh. aussi de nos jeunes sapeurs-pompiers qu'on prépare à devenir des futurs sapeurs-pompiers, et on garde aussi nos anciens qui ont servi pendant plusieurs années dans les effectifs. Mmh.
En termes d'effectifs chez les sapeurs-pompiers, vous parliez de 285 000 personnes qui sont à la fédération. En termes de proportion, c'est quoi ? C'est des volontaires, des professionnels ?
La France compte 200 000 sapeurs-pompiers volontaires. Mmh. C'est un citoyen qui, en plus de son travail, va donner du temps après des formations. Il y a actuellement 43 000 sapeurs-pompiers professionnels et on a deux unités militaires en Hexagone, à Paris mmh. et à Marseille.
Mmh. Vous êtes d'ailleurs, je crois, le premier président de la fédération à avoir été élu. Vous êtes un sapeur-pompier volontaire.
C'est ça, tout à fait. Je suis sapeur-pompier volontaire. Ce n'est pas un engagement à temps plein de sapeur-pompier. J'ai d'autres missions aux côtés, mais je suis sapeur-pompier volontaire depuis 1986, mmh. issu d'une section de jeunes sapeurs-pompiers.
Mmh. Pourquoi cette visite de quelques jours en Nouvelle-Calédonie ?
C'est l'un de mes engagements lorsque j'ai été élu à la tête de cette fédération. Et je me suis engagé à faire le tour de l'ensemble des territoires, y compris les Outre-mer. Et l'Union des pompiers calédoniens m'a invité lors du congrès qui avait eu lieu à Toulouse et m'a dit, président, ce serait bien de venir sur nos terres. Mmh. Et donc, j'ai une fâcheuse habitude, c'est de respecter mes engagements. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir, pendant 48 heures, parcourir ce beau territoire.
Mmh. Et vous allez ensuite en Polynésie française, hein ?
C'est ça, tout à fait. Demain matin, je redécolle pour aller finir ma visite de cette partie de la planète.
La Nouvelle-Calédonie, on le sait, a vécu des mois très très difficiles, lors desquels les sapeurs-pompiers ont été extrêmement sollicités, mais aussi à de très nombreuses reprises pris pour cible, notamment pendant les émeutes. Comment avez-vous trouvé les sapeurs-pompiers que vous avez rencontrés ? Dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui ?
Vous avez des femmes et des hommes ici, en Nouvelle-Calédonie, qui sont très engagés pour aller porter le secours aux citoyens, quelles que soient les conditions. Et notamment, vous le citez, lorsqu'il y a eu les événements, les sapeurs-pompiers ici se sont organisés, bien souvent pour rester plusieurs jours bloqués en caserne, mmh. pour pouvoir continuer à assurer la mission dans des conditions de sécurité les meilleures. Parfois, certaines missions n'ont pas pu être remplies parce que la sécurité n'était pas assurée. Nous avons la chance, malgré ces événements, de ne pas avoir eu de blessés. Mais souvent, oui, les pompiers sont en première ligne et voyez malheureusement dans les pays en guerre, comme l'Ukraine, ce qu'on voit en premier sur le terrain, c'est encore les sapeurs-pompiers.
C'était l'un des objectifs de ce déplacement, de comprendre au plus près ce que vos collègues ont vécu ces derniers mois, notamment en mai, juin, juillet 2024.
Oui, ça fait partie aussi d'aller vers les collègues, d'apporter tout le soutien de la fédération, de comprendre aussi certaines thématiques au plus près du terrain, pour reprendre une expression très connue chez les sapeurs-pompiers qui peut paraître un peu vulgaire, mais on parle d'être au cul du fourgon pour pouvoir mieux comprendre les choses et les relayer après auprès du gouvernement français, du ministre, et de manière à essayer de régler parfois quelques petits problèmes qui prennent des conséquences assez lourdes.
Alors, mon colonel, vous êtes rendu dans plusieurs centres de secours, dans le Grand Nouméa, mais aussi en Brousse. Pourquoi ces visites et qu'est-ce que vous en retenez ? On sait que l'organisation des sapeurs-pompiers en Calédonie est un peu différente que celle qui existe en métropole. Il y a des choses à travailler peut-être là-dessus ?
Elle est différente puisqu'elle est construite à l'échelon communal. Mmh. C'est l'histoire des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers, contrairement à d'autres services, sont issus des communes. Le Code général des collectivités territoriales prévoit que le maire est responsable des secours sur sa commune et il est le directeur des opérations de secours avec, bien sûr, un technicien sapeur-pompier qui est, lui, le commandant des opérations de secours. C'est notre histoire des sapeurs-pompiers. Le système en hexagone était construit comme ça jusqu'aux années, au 1er janvier 2000, puisqu'il y a eu une loi en 96 qui a fixé l'organisation à un échelon départemental.
Qu'est-ce que vous retirez de ces visites dans les centres de secours que vous avez pu visiter en Calédonie ?
Je suis accompagné de deux collègues, un collègue de l'œuvre des pupilles et le secrétaire général de la fédération, et nous avons échangé pas plus tard que cet après-midi sur ce qu'on a vu. Nous avons vu, je le répète, des femmes et des hommes très engagés, ouais. des collègues très résilients qui ont des conditions de travail agréables. On pourrait pointer, par contre, que certaines communes pourraient réimplanter certains centres de secours, puisqu'il est clair que quand on vient de l'Hexagone et on voit une distance d'à peu près 100 km entre deux centres de secours, on pourrait probablement réouvrir quelques centres de secours dans des communes, mais la sécurité des habitants est bien assurée.
Vous avez aussi rencontré quelques responsables des institutions. Qu'est-ce qui ressort de ces rencontres ?
Ce matin, nous avons une rencontre d'abord avec les maires de certaines communes. Mmh. Nous avons eu ensuite des parlementaires, des élus calédoniens. Il y a une vraie réflexion autour de cette organisation des secours. Quelle est l'évolution ? Quelle doit être la meilleure des pistes ? Dans l'Hexagone, aujourd'hui, on réfléchit à l'organisation de la sécurité civile de demain. C'est le Beauvau de la sécurité civile qui a été mis en place à l'époque par le ministre Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer à l'époque, et qui nous permet de réfléchir à comment s'adapter aujourd'hui à l'évolution de la société, à l'évolution aussi de nos jeunes qui s'engagent pour des durées beaucoup plus courtes. Donc on a besoin de s'adapter si on veut continuer à assurer les missions correctement.
Comment est-ce que la fédération finalement peut aider les sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie après ce qui s'est passé en 2024 et j'allais dire presque au quotidien ?
En permanence, on a des commissions qui sont composées de celles et ceux qui arment les véhicules dans nos casernes sur l'ensemble des territoires, qui permettent de construire, de proposer et d'améliorer des nouvelles évolutions. Et on compte ici sur l'Union des pompiers calédoniennes, l'UPC justement, pour nous aider à travailler, à avancer. Et moi, je repars avec deux, trois propositions auprès notamment du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, sur l'amélioration à apporter ici en Nouvelle-Calédonie.
C'est vraiment des propositions que vous allez porter au ministère. Vous avez cette capacité, j'allais dire, opérationnelle.
C'est mon ambition, ouais. C'est d'ailleurs mon engagement, très clairement. On va le faire, on va l'écrire aussi. Il faut bien laisser des traces. Et c'est des choses qui, parfois, sont un peu curieuses et qui demandent du bon sens pour la mettre en œuvre et améliorer ce quotidien.
Une dernière question, mon colonel. Vous le disiez tout à l'heure, en débutant cet entretien, vous avez commencé votre carrière chez les sapeurs-pompiers en passant par ce qu'on appelle les JSP, les jeunes sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, en Calédonie, on sent qu'il y a des jeunes qui ont envie de s'engager. Vous avez pu en rencontrer. Et qu'est-ce que, finalement, vous auriez à dire à ces jeunes qui, peut-être, se disent « Tiens, j'aimerais bien apporter quelque chose à la société ».
On a vu pas mal de jeunes présents dans les casernes. On a vu aussi, particularité calédonienne, beaucoup de femmes engagées. Il y a plus de femmes engagées à l'échelon de la Nouvelle-Calédonie que sur l'Hexagone. Et c'est quelque chose qui fait plaisir pour un vieux soldat comme moi, un vieux soldat du feu, et de voir que des jeunes s'engagent, s'intéressent. On a vu aussi des sections de jeunes sapeurs-pompiers, et je tiens vraiment à féliciter les sapeurs-pompiers qui, en plus de leur activité, de tous leurs engagements, consacrent aussi du temps à former les plus jeunes qui nous remplaceront demain lorsque nous on se retirera du service.
Vous avez fait le tour des popotes, vous allez continuer de le faire dans le Pacifique, en Polynésie française. On vous reverra avant la fin de votre mandat, mon colonel, en Calédonie ?
Ah ben, peut-être.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir, colonel.
Merci
Jean-Paul Bosselon, qui est le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Il est 18h01, on va marquer une première pause dans ce journal dans un instant. La suite de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. Info soir, Lionel Sabot.
Et dans l'actualité de ce lundi soir, cette opération d'aide médicale en mer qui a eu lieu ce matin à bord du paquebot de croisière Carnival Splendor au large de l'île des Pins. Un croisiériste australien a été évacué après un arrêt cardiaque par l'hélicoptère Puma des forces armées en Nouvelle-Calédonie. L'homme, malheureusement, est décédé. Écoutez les précisions de l'administrateur des affaires maritimes, Martin Blanchard. C'est le directeur par intérim du COSNC.
Ce matin, nous avons été alertés via l'agent maritime du paquebot Carnival Splendor. Un de leurs passagers avait un problème médical grave. Donc après contact avec le docteur du bord, nous avons mis en place une conférence de régulation médicale. Et au vu de l'état du patient, qui était inconscient et intubé suite à un arrêt cardiaque assez tôt dans la matinée, il a été décidé de l'évacuer médicalement le plus rapidement possible. C'est une opération coordonnée par le COSNC. Et dans le cadre de cette évacuation médicale, nous avons demandé l'engagement d'un hélicoptère Puma des forces armées en Nouvelle-Calédonie et également le concours d'une équipe médicale militaire qui a permis d'évacuer le patient depuis le paquebot vers le Médipôle. Alors malheureusement, le patient a fait un nouvel arrêt cardiaque au moment de sa prise en charge au Médipôle et malgré les soins prodigués par l'équipe médicale, il est malheureusement décédé.
Martin Blanchard, le directeur par intérim du COSNC, a joint au téléphone cet après-midi par Kalinda Boicou. Dans le Nord, le CHN annonce la réouverture du service de chirurgie de Conné. 10 lits sont désormais opérationnels. Autre nouveauté, la reprise des sorties du SMUR en journée uniquement. Les détails de Marc Wété, c'est le nouveau directeur du centre hospitalier du Nord.
Jusqu'à présent, l'activité de SMUR, donc on n'avait pas d'intervention SMUR, l'équipe ne pouvait pas sortir puisqu'on n'avait pas suffisamment d'effectifs. Aujourd'hui, on peut le faire en journée. C'est-à-dire que la couverture du SMUR va jusqu'à Bouraï, Pointe-d'Imier, Conné et Koumac. Alors là, une équipe SMUR, c'est un urgentiste, une infirmière, un infirmier et un ambulancier. Jusqu'à présent, on avait, au niveau du capacitaire du CHN, on a 20 lits d'hospitalisation de médecine et 20 lits d'hospitalisation de chirurgie et 12 lits de maternité. En raison d'un effectif paramédical insuffisant, on a dû fermer le service de chirurgie, ou plutôt on a fusionné le service de chirurgie et le service de médecine en un seul service de 20 lits. Enfin, on a adapté en gros nos ressources à l'offre qu'on est en capacité de proposer à la population. Aujourd'hui, étant donné que nous avons à nouveau pu recruter des paramédicaux, on va réouvrir un véritable service de chirurgie, de manière à pouvoir accueillir plus de patients. Là, aujourd'hui, même si on arrive à réouvrir des services, la reprise reste fragile parce qu'il faut stabiliser le recrutement, ce qui n'est pas encore le cas complètement.
Et j'ajoute qu'il n'y a pas de changement pour les CHN de Koumac et de Pointe-d'Imier. Seules les consultations médicales restent assurées. Elle a dit qu'elle lance une campagne de recrutement de bénévoles. Des cafés rencontres sont proposés dans tous les lieux où l'association pour le droit à l'initiative économique intervient sur le territoire. Les bénévoles travaillent avec des conseillers pour accompagner les porteurs de projets qui sollicitent un microcrédit. Alexandre Dufault est le directeur des opérations de l'ADI.
L'ADI, c'est une association et le rôle des bénévoles est essentiel. Depuis sa création, d'ailleurs, l'ADI a été créée par des bénévoles il y a plus de 35 ans maintenant. Notre objectif, c'est de renforcer cette ressource humaine pour aider davantage d'entrepreneurs en Nouvelle-Calédonie à construire leur projet d'entrepreneuriat et puis surtout à réussir à mener leur projet à bien. C'est très souvent en appui aux entrepreneurs. Donc, les profils sont variés. Ça peut être des personnes de terrain qui vont aller parler de l'ADI dans les quartiers, dans les tribus, pour que les gens connaissent nos outils de financement pour les aider à financer leur projet. Ça peut être aussi dans l'accompagnement, beaucoup. C'est-à-dire conseiller les entrepreneurs, ça peut être également dans le cadre, par exemple, de l'étude des demandes de financement pour offrir un service de qualité, de la rapidité, de la proximité aux entrepreneurs et aux demandeurs d'emploi qui ont besoin d'un financement.
Oui, ce matin, des rencontres ont été organisées à Ducos, Conné et Yaté. Hélène tenait le stand de la direction de l'emploi et du logement de la province sud à Ducos.
On a plusieurs volets. S'ils sont là pour partager leur expérience en tant qu'entrepreneur ou soit ils ont des métiers pour pouvoir transmettre et pour vivre aussi l'expérience humaine qu'on a à travers des rencontres que l'on fait avec nos clients. Et ils servent vraiment à nous aider aussi dans nos missions, quoi. Bah, nous, on n'a pas de profil particulier. C'est vraiment les personnes qui sont disponibles, prêtes à accompagner, aider la population, les personnes à construire leurs projets, qui sont prêtes à disponibles aussi. Pour nous aider aussi, nous, l'ADI, dans nos missions.
Et vous pouvez retrouver la liste des événements organisés cette semaine sur le site internet de l'ADI. Dans l'actualité, ce lundi soir également, la CAFAT, Léana Colombo, qui renforce son action contre le travail dissimulé.
Oui, le régime calédonien de protection sociale rappelle, au travers d'une campagne lancée ce jour, que le travail dissimulé est un délit passible de sanctions pénales, financières et pouvant entraîner la privation de droits des travailleurs. Afin de lutter contre ce fléau, la CAFAT mène régulièrement des actions auprès des entreprises. 12 contrôleurs assermentés effectuent des contrôles aléatoires ou ciblés. En 2024, 1062 contrôles ont été menés. La CAFAT collabore également avec d'autres partenaires au travers notamment du COTAF, le Comité Opérationnel Territorial Antifraude. Ce dernier a ainsi mené 204 contrôles l'an passé et le montant total des cotisations et contributions redressées s'élevait à 536 millions de francs en 2024.
RRB, il est 18h08.
C'est aujourd'hui, 1er septembre, qu'est entrée en vigueur l'interdiction de pêcher les picots en province sud et en province nord.
Et c'est aussi, comme chaque année, le début de l'interdiction de collecter les huîtres de roche et de palétuvier, et ce jusqu'au 30 avril prochain. Les explications de Tiffaine Reed, adjointe au chef de service de prévention de proximité et d'accompagnement technique à la direction du développement durable de la province sud.
Comme chaque année, en fait, à partir du 1er septembre, la pêche, la vente, l'achat de tous les picots de la famille des ciganidés sont interdits jusqu'au 31 janvier donc là, 2026. Et on parle bien de ciganidés, donc c'est les vrais picots. Donc on parle du picot rayé, du picot gris, du picot hirondelle. Et en fait, les picots des autres espèces, comme un picot papillon ou un picot canaque, en fait, ne sont pas dans cette interdiction, puisqu'ils ne font pas partie des ciganidés, ce sont des chirurgiens. On est sur des périodes, en fait, de reproduction pour ces individus. Donc en fait, il est important, en fait, de les laisser tranquilles pendant cette saison, bah, pour pouvoir mieux en profiter à la réouverture. Les huîtres de roche et de palétuvier sont intégralement interdites à la pêche et à la commercialisation jusqu'au 30 avril. Et donc, un petit moyen mémotechnique, en fait, la pêche et la vente de ces huîtres-là ne sont interdites que dans les mois où il n'y a pas de R. Donc, mai, juin, juillet, août. Tous les mois où il y a un R, ils sont interdits.
On rappelle que le non-respect de ces dispositions constitue un délit passible d'une amende de 2 684 000 francs ainsi que de la confiscation du matériel de pêche. Toutes les informations sur la réglementation et les calendriers de pêche sont disponibles sur le guide du Lagon de la province sud, accessible en ligne.
Une semaine orientée sur l'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement. Elle se déroule jusqu'à vendredi au lycée Jules Garnier. Entre activités, expositions et mise en situation, l'établissement organise des actions tout au long de la semaine. Écoutez, Michel Lehouillet, c'est le proviseur du lycée Jules Garnier.
Cette semaine sur Jules Garnier, on organise la semaine ESCE, donc la semaine de l'éducation à santé, à la citoyenneté et à l'environnement, avec des actions qui se déroulent de lundi à vendredi. Donc sur les deux premiers jours, on a organisé des actions de nettoyage et d'embellissement de l'établissement. Mercredi, c'est des actions essentiellement le volet citoyenneté et le volet égalité. Voilà, ce type d'action-là, donc vraiment sur la citoyenneté. Et jeudi, on a diverses actions tournées sur le développement durable. Et vendredi, pareil. À travers tout ça, on essaye vraiment de sensibiliser les élèves, un esprit citoyen au sens large.
Des propos recueillis par Marie Romain, un événement organisé en partenariat notamment avec la province sud, l'ADES ou encore le milieu associatif. La lecture, une activité importante pour les enfants, quel que soit leur âge, une activité en recul depuis l'irruption des écrans et notamment des smartphones. Alors que l'opération Livre mon avis, mon ami n'est plus reconduite, nous parlerons de la lecture demain dans le magazine Citoyen. Nous serons en compagnie notamment d'Élodie Lalnay, qui est chef du service de la conservation et de la valorisation du patrimoine à la direction de la culture à la mairie de Nouméa, de Marie Crenier, la présidente de l'association des écrivain calédonien, et de Yannick Jean, auteur et éditeur aux éditions Pacifique Sud. Un mot de l'actualité militaire avec le début aujourd'hui de l'exercice bilatéral franco-japonais Brunei Takamori 2025. Il s'agit de la troisième édition de cet exercice préparé et conduit par le RIMAPNC. Jusqu'au 11 septembre, cet exercice rassemblera des militaires des FANG, bien évidemment, mais aussi environ 120 militaires japonais de la force terrestre d'autodéfense japonaise appartenant au 21e régiment d'infanterie, à l'état-major de la 9e division et à l'armée du Nord-Est. Au cours de cet exercice, les forces françaises et japonaises s'entraîneront conjointement sur diverses opérations tactiques afin de répondre, le cas échéant, aux défis sécuritaires dans la région. Cet exercice a également pour objectif de renforcer le partenariat stratégique franco-japonais et renforcer la volonté de la France et du Japon de contribuer activement à la stabilité dans l'Indo-Pacifique. Il est 18h12, on va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive, on parlera cricket et voile, et puis il y aura également la météo.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
C'est le grand retour de la seigneurie en Nouvelle-Calédonie. Professionnel ou particulier, retrouvez LA marque référence des peintures pour vos intérieurs ou extérieurs. Seigneurie by Ducos Quincaillerie, donnez vie à vos projets.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Lionel Sabot.
Et nous avons parlé de l'actualité du cricket ce midi dans le MAC des Sports au lendemain de la victoire de la JSUV en finale du championnat territorial et avant les finales messieurs reportées au week-end prochain. Notre invitée était Marie-Hélène Connu, la secrétaire générale du comité de cricket en Nouvelle-Calédonie.
Ça s'est très bien passé pour les dames. Des belles demi-finales samedi après-midi avec des nouvelles équipes dans le carré final. Intéressant, oui. Le cricket. Et une superbe finale avec des belles actrices sur le terrain et une belle victoire de la JSUVA. L'évolution de la pratique, ça c'est encadré. Il y a des entraînements, parce que c'est avant tout, que ce soit un sport traditionnel, mais c'est avant tout un sport. Donc certaines équipes ont compris, notamment la JSUVA. Donc ils ont instauré des plans d'entraînement, de préparation physique, et ça s'est vu dans le jeu. Très bonne évolution du cricket. Suite aux événements, on n'était pas sûr que ça reprenne. Ça a repris avec une légère baisse de l'activité de 14% à peu près. Mais on est encore en cours d'activité. Surtout quand on se projette sur le deuxième tableau, c'est-à-dire le cricket international. Parce qu'on avait commencé notre saison avec le Women's Ship international. Ça a apporté de la dynamique et on a continué avec le cricket traditionnel. Et on terminera la saison sur un mini-championnat sous forme de tournoi.
Et un Mac des sports qui est à retrouver bien évidemment en podcast sur notre site internet rrb.nc. Le sport, c'est aussi de la voile. Au bonheur des dames, le week-end prochain, on retrouvera la désormais bien connue No Woman No Sail, l'événement de référence pour la voile chez les féminines. Au menu des régates tout au long du week-end, au départ du Catamaran Club de la Côte Blanche. Les précisions de Céline Keltenmark, membre de l'association Défi des filles.
C'est un événement sportif, c'est une vraie régate avec 80 participantes, donc c'est énorme, on est à la 14e édition cette année. Du challenge, c'est carrément ce qu'on attend et on sait que les filles, il y a des filles de très très haut niveau, donc on est très très fiers qu'elles participent à cet événement cette année. L'idée, c'est d'ouvrir la voile au maximum aux femmes. Cette année, en plus, on a un équipage de jeunes, 10 ans, 12 ans, 13 ans avec leur coach à bord. Et on a aussi trois équipages de l'IFU et un équipage d'UVA. On a de très nombreux soutiens et on est très contentes de ça. On a envie de citer parmi plusieurs sponsors MLS qui nous soutient chaque année avec le don des t-shirts qui font beaucoup de succès. La boucherie, La Française, Paysans Bretons, Canal+, Coco G. Chaque année, les filles nous remercient de l'organisation et nous demandent à la fin quand c'est la prochaine date pour la No Woman No Sail. Donc ça montre que ça a beaucoup de succès. On est super contentes d'avoir un événement complet. Ça montre l'engouement des Calédoniennes et des compétitrices pour cet événement.
Une soirée festive est également prévue le samedi. En tout, 16 équipes seront dans lice pour ce week-end de finale 100% féminine. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous Pierre.
Cette nuit sur la côte ouest, les nuages présents en soirée se dissiperont pour laisser place à un ciel peu nuageux. Ailleurs, le ciel restera chargé avec quelques averses circulantes, notamment sur le nord-est et les Loyautés. L'alizée de secteur est faiblira progressivement, soufflant entre 10 et 15 nœuds. Les températures minimales évolueront peu, elles s'échelonneront entre 17 à 21 degrés avec des valeurs plus fraîches de 13 à 16 degrés dans l'intérieur des terres et sur marée. Demain matin, le soleil dominera largement sur l'ouest et l'extrême sud. Ailleurs, les passages nuageux resteront fréquents et donneront quelques ondées. Le vent d'est à sud-est oscillera entre 10 et 15 nœuds.